Et tu lis le journal par d'autres dépliés. Que les matins sont longs aux phrases décevantes. Et les amours finissent avant qu'on ait. Les enfants de la ville ont vieilli cet été. La honte juvénile s'est si lourde à porter. Les enfants de la ville grandissent en hiver avec des yeux hostiles posés sur l'univers.
Radio Libertaire 89,4, à la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Sylvie.
Bonjour Denis.
Eh bien aujourd'hui, on va exposer un sujet, un sujet chaud. C'est la question des violences sexuelles et du viol.
Et puis aussi de l'obligation de soins.
Oui.
Parce que, donc, peut-être tu pourras dire l'annonce tout à l'heure, dimanche, avec le groupe Libertaire d'Ivry, à Publico, on organise une discussion sur le thème des violences sexuelles en milieu libertaire. Et si je t'ai proposé ce texte et tout sur l'obligation de soins, c'est par rapport à l'idée même de soins, d'ailleurs, des violeurs. Et c'est parce que c'est quelque chose qu'on réfute très, très radicalement. Et donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut expliquer parce que malheureusement, c'est pas la première fois qu'on fait une discussion sur ce sujet-là ou que j'en vois faire ailleurs, au Rémouleur par exemple. Et toujours, il y a des gens qui se pointent en se proposant de soigner, écouter, la rédemption des violeurs grâce à l'amour et tout ça, tu vois. Enfin, bon, je veux dire, la compréhension, la tolérance, etc. Et c'est quelque chose que je pense et ressens comme totalement toxique, mais l'obligation de soins, on passe encore un niveau, parce que déjà, il y a un problème, c'est que personne ne se propose jamais pour ne se proposent jamais pour être soignés. Enfin, les gens qui veulent faire ça, j'ai fait des recherches assez approfondies pour voir si ça existe des violeurs qui, hors obligation juridique, c'est-à-dire que soit qu'ils sont en procès, soit qu'ils sont d'ailleurs, ils ont eu une obligation de soins au moment du procès,
oui.
Des gens qui sont accusés par des victimes, par exemple, d'avoir violé, et qui se présenteraient spontanément pour être soignés. Parce que, massivement, ils n'ont pas fait le coup. Je n'ai trouvé qu'un contre-exemple, mais qui est très discutable. C'était un mec qui avait écrit anonymement à Libération pour dire que c'était dans le cadre des accusations de viol à Sciences Po, qu'il avait, en effet, il s'était passé du coup. Enfin, il n'avait pas poussé une femme sur une poubelle avec un couteau, hein, mais qu'il se serait passé de son consentement. Mais il disait tous les hommes sont comme moi. Tous les hommes sont comme moi, c'est la faute au patriarcat, c'est la faute à la société, et je suis ni mieux ni pire que n'importe quel autre homme. Mmh. Et ce que je réfute absolument, si je croyais une chose pareille, je le crois absolument pas. Je pense comme Petra Piedbiche, je sais pas si on mettra la chanson tout à l'heure, puisque
pourquoi pas.
Qu'on projettera, que les ordures sont pas des monstres, c'est des pourritures et des ordures, et que je ne pense pas que tous les hommes soient des pourritures et des ordures. C'est des gens qui sont dépourvus d'empathie, il n'y a rien à soigner parce que c'est pas comme s'ils avaient l'équivalent d'un furoncle qu'il faudrait retirer. C'est des gens qui n'ont jamais développé une capacité d'empathie, à mon avis. En tout cas, je ne vois pas comment tu pourrais. Des gens qui disent qu'ils n'ont rien fait, massivement. Tu vois, par exemple, tu vois le blog Combien de fois 4 ans qui recueille des témoignages de victimes dans les milieux militants libertaires ou alternatifs ou antifascistes. Il n'y a pas un seul de ces... Pas un, et de toute façon, il n'y en a pas. Vous voyez bien, même quand il y a des people qui sont accusés, ils ont même le culot de porter plainte pour diffamation. Il n'y en a pas un qui a baissé la tête en disant « Bah mince, c'est vrai, c'est pas sympa ce que j'ai fait là » ou je sais pas quoi. Tu vois, donc, je veux dire, déjà, le soin, l'idée de soin, même sur la base du volontariat, elle est absurde puisqu'il n'y a pas de volontaire. Mais l'idée du soin involontaire est là carrément absurde. Je pense qu'on peut... On peut aller dans ce sens.
À partir du moment où il y a,
on
répète souvent, c'est vrai, dans cette émission que la contrainte, c'est pas du soin.
C'est-à-dire que de toute façon, je pense que les psychiatres, enfin, je suis pas sûre de pas avoir un point de vue encore plus méchant sur la question.
Ah oui, plutôt. Non, mais ça c'est. Là, je reporte, disons, la parole surtout de personnes psychiatrisées, plus que
d'un, oui, d'une. Oui, ben évidemment, mais c'est personnelle. Surtout sur les, comment dire, les compétences et sur les préjugés. Par rapport aux psychiatres, qui justement, ça rejoint l'idée d'obligation de soins, c'est que les gens qui pensent que c'est une science, la psychiatrie, pour moi, c'est pas plus une science que, par exemple, l'astrologie. Ce n'est pas du tout une science, c'est pas du tout comme la médecine. Et le fait de mettre ça en parallèle avec quelque chose qui relève d'une vraie compétence. Je veux dire, il y en a qui sont incompétents, mais normalement, la médecine, c'est des compétences. C'est pas tout le monde qui va t'enlever un appendice infecté, ou qui va te faire une opération à cœur ouvert, ou même diagnostiquer que t'as, par exemple, une angine, ou une grippe, ou tu vois. Je veux dire, c'est quelque chose qui relève vraiment d'une compétence particulière.
Moi, dirais que c'est un peu des deux, c'est-à-dire la psychiatrie, il y a un petit côté astrologie, c'est-à-dire un grand côté même vraiment fictionnel, on peut dire, mais aussi il existe quand même une accumulation, de savoir autour des troubles psychiques, etc., qui sont plus tangible, quoi, plus sérieux.
Tu vois, là-dessus, je te déborde sur la gauche, parce que je pense pas. Franchement, je pense que ce que peut faire de mieux un psy, ça ne relève pas d'une compétence particulière. La boulangère, la concierge de ton voisin de palier peut aussi bien le faire pour peu qu'il ait une capacité d'écoute.
Ah non, mais
les
après,
diagnostics à la noix, je veux dire, c'est
après
pas...
Qu'il y ait de ce savoir quelque chose qui... une exploitation qui n'est pas faite et que, en réalité, effectivement, la plupart des psychiatres ne font que diagnostiquer et prescrire en 5 minutes, je dirais... C'est exact, oui, je suis d'accord avec ça. Mais il existe quand même un domaine de recherche, en tout cas, maintenant ce qu'on appelle le domaine de la santé mentale, quoi.
Oui, je sais qu'il y a de la recherche, mais de la recherche signifie pas que ce soit sérieux. Tu peux avoir de la recherche en astrologie aussi, pendant que tu vois ce que je veux dire.
Je sais pas s'il y a autant de recherche en astrologie.
C'est pas le fait qu'il y ait de la recherche qui signifie que c'est sérieux, tu vois. Et je veux dire, pour que ce soit sérieux, l'idée d'un protocole scientifique, ça obéit à certaines règles. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de la zététique. Il y a des gens qui font des recherches en paranormal. Tu vois, je suis en train de lire un bouquin sur l'imposture des Warren, ceux qui sont à la base de toute la série des films sur les maisons hantées, les Warren, tu vois. Et en fait, c'est de la pure foutaise, si tu veux. Et pourtant, ils ont un titre super ronflant sur les recherches paranormales, mais c'est n'importe quoi, c'est tout. Et je veux dire, pour que quelque chose soit pris au sérieux, donc la zététique se propose de réaliser des protocoles scientifiques pour essayer de voir si oui ou non la télépathie ou toutes sortes de pratiques paranormales, c'est sérieux ou c'est du flan. Et ils proposaient une somme, je ne sais plus combien c'était, une très forte somme, genre 100 000 $, à celui qui pourrait arriver à démontrer avec leur protocole à eux, scientifique, que, par exemple, la télépathie existe. Eh bien, je peux te dire ce que c'est le résultat, c'est zéro. Zéro.
Ah, oui.
Et ça a duré, 20 ans, jusqu'au moment où ils ont dit, bon, on va arrêter les frais. Mais des gens se présentaient, et dès qu'il y avait un protocole, c'était zéro. Eh bien, là, j'attends encore de voir, à part, effectivement, les médicaments, c'est la question des drogues. Et évidemment, les drogues, ça marche. Ça, c'est un truc médical. Si tu donnes un somnifère à quelqu'un, comme dans l'affaire Pellico, il n'y a pas de mystère, il va pioncer. Si tu lui donnes un calmant de force, il va être calmé de force. Enfin, il ne va pas être guéri, mais il va être dans le gaz. Tu vois, je veux dire, les drogues font un effet. Les médicaments peuvent faire un effet, même que tu sois d'accord ou non. Mais en revanche, tout ce qui relève de la psychiatrie au sens mental, pour le moment, ça me paraît aussi peu probant d'un point de vue scientifique, de ce qu'est un protocole scientifique, à savoir que l'expérience soit d'une part reproductible et puis qu'on puisse la décomposer, qu'on puisse expliquer ce qui s'est passé. Tu vois, je pense que chimiquement, on peut expliquer pourquoi quand tu avales un somnifère, tu vas dormir. En revanche, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un qui se soit un prétendu psy, qui aurait des connaissances particulières en maladie mentale, ou que ce soit ta voisine de palier qui n'a pas lu une ligne, qu'est-ce qui se passe quand ça te fait du bien de parler à quelqu'un?
Non, mais par exemple,
on te donne un bon conseil, tu vois ce que je veux dire.
Je peux donner un exemple, c'est justement par rapport aux violences sexuelles, il existe un institut qu'on peut aller voir quand on est victime de violences sexuelles, c'est l'institut de victimologie. Et là, il y a des psychiatres qui connaissent la question. Qui connaissent bien la question des conséquences sur le mental, mais aussi sur le physique, le traumatisme créé par les violences sexuelles sur les personnes, selon leurs témoignages.
Je reprends quand même.
Donc il y a quand même quelque chose d'un peu sérieux dans tout ça.
C'est sérieux, mais c'est sérieux comme c'est pas plus sérieux que moi, quand j'étais victime d'agression sexuelle, j'ai appelé SOS Viol, c'était une jeune femme au bout du fil, qui m'a pas dit quelque chose qui relevait d'une science quelconque, mais quand j'ai dit que je me sentais coupable, elle m'a dit simplement, et ça m'a fait du bien d'entendre ça, que l'immense majorité des femmes qui appelaient se sentaient coupables. T'as pas besoin d'avoir fait des recherches très approfondies, et encore une fois, c'est pas parce que t'as fait des recherches et que t'as un titre ronflant que ça veut dire que c'est sérieux.
Oui, mais enfin, c'est quand même le fruit d'une recherche, l'exemple que tu donnes. C'est-à-dire que la personne, elle a lu les statistiques et les statistiques ont été faites. Donc, des statistiques, c'est scientifique.
Oui, si tu veux, mais d'un autre côté, c'était aussi une jeune femme qui recueillait des témoignages. Quand elle me dit la majorité des témoignages que j'ai entendus, les femmes disent sans arrêt, je me sens coupable. J'ai même discuté avec des copines qui m'ont dit, moi aussi, alors que je suis féministe et que je sais très bien que j'y suis pour rien. Et les statistiques sont faites par des statisticiens qui recueillent des témoignages. T'as pas besoin d'avoir avalé des bibliothèques pour pouvoir faire recueillir les témoignages et te rendre compte que les femmes se sentent coupables. Quant au fait que tu as des traumatismes après, quelque chose de traumatisant, c'est un peu une palissade, on va dire. Et que, effectivement, ça relève de la sociologie, pas de la psychiatrie.
Et l'événement dont tu parlais, donc, à Publico...
si tu peux un peu le lire, je l'ai pas sous les yeux.
Dimanche 12 janvier, donc dimanche prochain, c'est une discussion agression sexuelle en milieu libertaire, avec un crocodile qui dit « on n'est pas tous comme ça ». Moi, je ne suis pas comme ça, en tout cas.
C'est une BD qui s'appelle Les Crocodiles, la question du harcèlement sexuel. D'accord. Qui est très bien, d'ailleurs.
Alors, violeur, ordure, je n'attends rien de toi, ni de celles et ceux qui savent et t'invitent encore à causer. La chanson de Petra Piedbiche résume bien la question. Les motivations des agresseurs ne sont pas compliquées à comprendre. J'en avais envie, je me suis servi. Pour des anarchistes, pas question pour autant d'exiger des sanctions pénales. Alors, que faire ? Et donc, cette discussion, dimanche 12 janvier 2025, à partir de 16h, accueil dès 15h, entrée libre, à l'invitation du groupe Libertaire d'Ivry. Et ce sera bien évidemment à la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Et l'article donc dont on a fait l'introduction, eh bien c'est « Violence sexuelle, soigner les auteurs, c'est faire moins de victimes », entre guillemets. Un article de Usbek Erika, de la revue internet Usbek Erika. Et voilà, maintenant peut-être qu'est-ce qu'on peut aussi... définir qu'est-ce que c'est que des violences sexuelles. Alors il y a les définitions légales qui sont là, ici apportées par un tract de la CNT, victime ou témoin de violences sexistes et sexuelles sur ton lieu de travail, point d'interrogation. Voici quelques infos sur les démarches possibles pour se protéger et se défendre. Donc, produit par le syndicat de la CNT. Et donc les définitions légales de la...
Juste une parenthèse, j'ai parlé tout à l'heure du blog Combien de fois 4 ans. Je vous conseille d'aller le voir, c'est vraiment très intéressant. Il est inactif depuis quelques années, mais toujours visible. Mm-hmm. Et en page d'accueil, il détaille l'affaire d'agression sexuelle qu'il y a eu à la CNT, qui n'a pas été franchement résolue. Juste pour info.
Alors, là, bon, c'est un groupe féministe là, qui a conçu ce tract. Définition légale, le harcèlement se manifeste par des agissements répétés pouvant entraîner pour la personne qui le subit une dégradation de ses conditions de travail, pouvant aboutir à une atteinte à ses droits et à sa dignité, ou une altération de sa santé physique ou mentale, ou une menace pour son évolution professionnelle. Ça, c'est pour le harcèlement. L'agression sexuelle est une atteinte sexuelle commise sur une personne avec violence, contrainte, menace ou surprise, c'est-à-dire sans son consentement. La contrainte peut être physique ou morale. Le viol est un acte de pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital qui est commis sur une personne avec violence, contrainte, menace ou surprise, c'est-à-dire sans son consentement. La pénétration sexuelle peut être une pénétration vaginale, anale ou bucco-génitale, effectuée par le sexe, les doigts, une autre partie du corps ou un objet. La contrainte peut être physique ou morale. Alors, exemple de violence sexiste ou sexuelle. Main sur la cuisse, proposition ou blague connotée sexuellement, baiser volé, remarque sexiste sur la tenue vestimentaire, critique sur les compétences en tant que femme ou autre, point de suspension. Et on peut faire un petit plus, un rajout avec un extrait du site www.mémoiretraumatique, un extrait de page rédigé par le docteur Muriel Salmona.
Oui, très, très connu. Oui.
Les violences sexuelles n'ont rien à voir avec un désir sexuel ni avec des pulsions sexuelles. Ce sont des armes très efficaces pour détruire et dégrader l'autre, le soumettre et le réduire à l'état d'objet et d'esclave. Il s'agit avant tout de dominer et d'exercer sa toute-puissance. Voilà. Alors maintenant, on peut attaquer l'article. Violences sexuelles, entre guillemets, soigner les auteurs, c'est faire moins de victimes. Alors, ce sont plusieurs personnes qui sont interviewées. Gabrielle Arena, Caroline Legendre et Gaëlle Saint-James décrivent le fonctionnement psychique des auteurs de violences sexuelles et les différentes thérapies destinées à leur faire prendre conscience de la gravité de leurs actes.
Excuse-moi si je ricane.
Entretien croisé. Alors, dans un essai écrit à six mains et paru l'année dernière aux éditions du Détour, « 16 hommes parmi nous », Gabriel Arena, Caroline Legendre et Gaëlle Saint-Jalme racontent comment elles tentent de soigner les auteurs de violences sexistes et sexuelles, notamment à travers des soins psychiatriques obligatoires en France pour les auteurs de violences sexuelles. Récit documenté par ses soins, récit documenté de ses soins, ce livre est pour elle une manière de, je cite, décrire le fonctionnement psychique de ces hommes et les différentes thérapies destinées à leur faire prendre conscience de la gravité de leurs actes. Fin de citation. Dans le but d'empêcher la récidive et peut-être d'envisager un futur meilleur. Entretien. Usbek Erika, le journal. Comme vous le rappelez en introduction, en France, depuis 1998, la loi Guigou impose aux auteurs de violences sexuelles un suivi socio-judiciaire pour éviter la récidive. En quoi consiste ce suivi ? Gabriel Arena. Le suivi socio-judiciaire se passe après la sanction, c'est-à-dire après la peine de prison. Avant 1998, d'autres types de suivi existaient déjà dans la loi, notamment des obligations de soins pour les personnes alcooliques ou toxicomanes. La nouveauté de la loi de 1998 est que ce suivi se passe après la détention. Dans les derniers mois de l'incarcération, un médecin psychiatre expert détermine si le sujet peut prétendre aux soins, soit pour suivre une prise en charge thérapeutique commencée en prison, soit l'initier. Le sujet qui sort de prison avec une injonction de soins doit donc trouver un médecin psychiatre pour faire ce travail thérapeutique. Ce travail-là sera assuré par deux médecins, un médecin choisi par le sujet lui-même, qui s'occupera de sa prise en charge, et un médecin coordonnateur désigné par le juge. Celui-ci supervise l'ensemble de la prise en charge. En cas de non-observance du suivi, le médecin coordonnateur peut le signaler au magistrat et aider le médecin traitant dans sa prise en charge. Au volet thérapeutique s'ajoute également un volet social, avoir un lieu de résidence, un travail, éviter les lieux fréquentés par sa ou ses victimes. Tout ceci est contrôlé une fois par mois par le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, ces hommes ne sont donc pas, entre guillemets, relâchés dans la nature. Ils ont toute une grille d'injonctions à respecter.
J'ai donc quelques commentaires déjà à ce stade-là à faire. Donc, je reprends ce que je disais tout à l'heure. Déjà que je suis extrêmement dubitative sur l'aspect médical, donc quelque chose qui... Je dis encore une fois, si un médecin te soigne contre ton gré, ça marchera. Si jamais c'est un bon médecin, je veux dire, si jamais t'as une appendicite et que t'es pas d'accord pour qu'on t'opère, même si t'es dans le coma, ça marchera parce que la médecine ou si on t'administre une drogue, ça marchera que tu sois d'accord ou non. Tu vois ce que je veux dire. Mais en ce qui concerne tout ce qui se propose de faire, je trouve ça incroyable que personne se dise. Qu'est-ce que c'est que cette foutaise? On te met un flingue sur la tempe et puis on te dit maintenant, dis que t'es désolé. Je suis désolé. Tu sais, c'est complètement farfelu, quoi, je veux dire, comme idée. Tu te dis, évidemment qu'ils sont complètement sous contrainte. Et moi, je vois, à un moment donné, j'avais fait une tentative de suicide. Je pensais pouvoir me présenter à l'hôpital volontairement et sortir quand je voulais. Et en fait, c'est pas vrai quand les médecins peuvent tout à fait t'empêcher de sortir, même si t'es rentré volontairement. Donc la psychiatre me dit je vous relâche pas, sauf si vous jurez que vous allez aller voir un psychiatre. Oh, tu parles que comment je lui ai juré, mais alors vraiment acteur studio, hein, tu sais, j'aurais convaincu une pierre, hein, vraiment. Ah oui, oh là là, oh, comment j'ai trop envie d'aller voir un psychiatre, enfin t'imagines. Et je veux dire, mais ça n'a aucune valeur. Je comprends pas que un truc aussi évident, enfin je veux dire que soit spontané, c'est vraiment tout, que soit spontané. Spontanément, tu meurs d'envie d'être soigné. Mais encore une fois, c'est des gens, ils disent qu'ils ont rien fait. Comment veux-tu partir de ce postulat et t'imaginer qu'à force de les harceler, ou pourquoi pas peut-être de les taper, Tu vois, ils vont peut-être finir par dire je suis désolée, oui, mais la spontanéité, soit spontanée, sinon c'est mon poing dans la gueule, je veux dire, sinon tu retournes en prison, c'est ridicule comme idée. Mm-hmm. C'est des gens, ils reconnaissent. Enfin, je veux dire, le postulat de départ, c'est que tu te dis il y en a combien ? Quand des gens se sont présentés donc, sur des débats en disant on a eu une trop super idée, la justice réparatrice transformative, et puis surtout faire des câlins aux agresseurs sexuels et leur dire pourquoi t'as fait ça, c'est pas gentil, tu vois, oui. Et que du coup ça va marcher, et tout de suite la question qui vient c'est est-ce que t'as eu des candidats? Ah non, mais ça peut arriver. Non. Donc là la question c'est est-ce qu'il y a des candidats? Bah j'ai cherché, non il y en a pas. Dans le texte ils prétendent qu'il y a 20% des hommes viendraient spontanément hors obligation judiciaire. J'ai cherché pour voir de quoi il parlait, parce que c'est quand même un peu gratuit, dit comme ça. Mmh. Alors que c'est vachement ébouriffant comme idée. D'où ils sortent ces 20% de gens, sachant que quand ils se font prendre la main dans le sac, ils disent c'est pas moi. Et qui, même, t'as vu, même récemment, Philippe Cobert, par exemple, qui vient d'être convaincu de viol vraiment franchement aggravé sur des jeunes filles, bah, il porte plainte pour diffamation, enfin, comme tous les autres. Tu peux pas me citer un nom de MeToo où le mec dit « Ouais, c'est vrai, je suis vraiment quand même un petit peu salaud d'avoir fait ça. » Il n'y en a pas. Mmh. Donc, qu'est-ce que tu veux soigner dans ces conditions ? Donc, voilà, quoi. C'est un truc vraiment complètement... une affirmation totalement gratuite. Mmh. Voilà.
Je poursuis la lecture de l'article avec Gabriel Saint-Jalme qui dit « L'intérêt de cette loi est de faire l'articulation entre santé et justice. » Elle est fondée sur tout un panel d'études, wow, qui n'est pas cité ici, qui démontre bien l'intérêt des soins pour les auteurs de violences sexuelles.
Juste une parenthèse sur le panel d'études. Sur le truc d'internet, il y avait à plusieurs reprises, il y a des liens qui sont censés donc démontrer ce qui vient d'être affirmé. Mm-hmm. Mais la plupart des gens ne cliquent pas sur les liens de toute façon, et bien grand bien leur fasse, parce que quand tu cliques sur les liens, ça n'a rien à voir. C'est limite des recettes de cuisine ou des blagues de Toto. Ah, enfin, oui. Genre, ça n'a rien à voir. Donc ça démontre absolument rien. Mm-hmm. Mais il y a des liens, hein, mais ça n'a pas de rapport avec l'affirmation qui vient d'être faite. C'est juste une parenthèse sur le panel d'études en question. D'accord. Continue, excuse-moi.
Le suivi socio-judiciaire, ajoute-t-elle, représente une espèce de contenant externe judiciaire à l'intérieur duquel va pouvoir se mettre en place une injonction de soins. Donc c'est un dispositif. Alors, le journal Uzbek Erika. Le point de départ de ce livre est aussi votre intérêt pour le futur, puisque, comme vous l'écrivez, en tant que psychiatre et psychologue, vous cherchez, je cite, « les leviers permettant de supprimer ce type de comportement violent dans le futur ».
C'est ça, cherche.
Gabriel Arenas. En effet, souvent, quand un fait divers survient dans les médias, on découvre que l'auteur a déjà des antécédents. À partir des années 1990, il y a donc eu tout un mouvement de mobilisation de la part de psychiatres et de psychologues qui ont commencé à réfléchir au fonctionnement psychique de ces sujets.
C'est ça, réfléchis.
Tenter de comprendre les mécanismes qui amènent une personne à passer à l'acte et à recommencer, et donc in fine d'empêcher qu'elle récidive. Pour expliquer la violence sexuelle et sa mise en acte, beaucoup de mécanismes psychologiques, sociaux, éducatifs entrent en jeu.
Alors là aussi, une parenthèse, hein. Justement là je reviens à Petra Piedbich et à ce qu'on dit nous dans notre énoncé, c'est de la langue de bois, excuse-moi, mais ça mange pas de pain de dire « Ah, il y a beaucoup de mécanismes qui rentrent en jeu », mais le fait est que quand tu connais, ben, par exemple dans les milieux libertaires, on a quand même un certain nombre d'exemples, si tu veux, et personnellement, je suis pas la seule, quand tu as été confrontée à des agresseurs sexuels, tu te rends compte que Petra Piedbich a en effet bien résumé la question. C'est des gens qui sont dépourvus d'empathie. Alors, le fait de dire qu'il y a des mécanismes, tu peux toujours chercher, mais quelque part, là aussi, le préjugé, ce serait que, au fond, les gens auraient, ces gens qui sont des gens qui sont cruels, en réalité, dépourvus d'empathie, en réalité, non, ils auraient, ça serait comme un diamant dans sa gangue, t'enlèves la gangue et tu vois surgir une merveilleuse capacité effectivement d'empathie, de penser à autre chose qu'à sa gueule et à sa bite, mais en réalité c'est des mecs qui pensent qu'à eux, tu vois, regarde même des gens connus, Enfin bon, dans nos milieux, je pense à des gens comme Paco, par exemple, sur lequel, si vous cherchez sur Internet Paco, violeur libertaire, il s'en prenait à des jeunes gens. Et ben, ils se justifiaient en disant non, je les ai pas violés, ils ont nié leur propre plaisir, etc. C'est à cause de l'homophobie de la société. Mais quand tu connais Paco, tu comprends que tu as affaire à un mec hyper égoïste et égocentrique. DSK. Il, comme dans la chanson de Petra Piedbiche, enfin, quel que soit le milieu, les violeurs, c'est ça. DSK est sorti, il a vu le cul de la femme de ménage, il s'est dit, ouais, un vide-couille, et puis voilà, c'est tout. Moi, je veux bien que les mécanismes sont très compliqués, mais là, ils parlent de chercher, mais à ma connaissance, ils n'ont jamais rien trouvé, et ils peuvent toujours chercher. Bon.
Poursuivons. Gabriel Arena. Alors, à propos de supprimer ce type de comportement violent dans le futur. En effet, souvent, quand un fait divers survient dans les médias, on découvre que l'auteur a déjà des antécédents. Ah oui, ça, j'ai déjà lu.
Oui, non, maintenant, ouais. T'en es une fois compris.
Ah oui, Caroline
Lejean. Passage à l'acte. Bah, à part ça, tu zappes, tu dis, oui, alors comme ça, on l'a compris. Non, mais excuse-moi, mais je veux dire, je parle de logique, là. Hein. Je te parle même pas du fait que, bien sûr, tu vois nulle part ça si tu cherches, mais même sans chercher, excuse-moi, une fois que tu as dit, il y a beaucoup de mécanismes psychologiques, socio-éducatifs qui entrent en jeu, et ben, ça y est, une fois que tu as dit ça, tu as compris l'origine du passage à l'acte. Excuse-moi, on l'attend encore, l'explication et la compréhension de l'origine du passage à l'acte. Même admettons que tu te dises, j'ai connu comme ça un mec qui était effectivement le mec d'une copine qui était un pédophile et qui disait qu'il avait été agressé sexuellement. C'est juste quand il était petit, il était dans une unité orphelin, dans une école de curé, il avait été violé. Donc il supposait qu'il y avait un rapport. Tu dis même, admettons qu'il y a un rapport. Premièrement, toutes les victimes ne deviennent pas des violeurs, donc il y a quand même quelque chose qui t'échappe quand même encore grandement. Mais même, c'est pas un problème de compréhension. Même en admettant que t'es compris, eh ben, c'est tout. Il continue quand même, et puis il se justifie toujours. Voilà. Donc voilà, l'idée vraiment...
Il y a l'idée donc d'avoir compris l'origine du passage à l'acte, puis d'éviter ensuite la répétition par la thérapie. Alors, Caroline Legendre dit, pour cela, on essaie d'aider les auteurs à identifier eux-mêmes quels ont été ces mécanismes. On revient sur beaucoup d'aspects de leur vie, leurs ruptures amoureuses, leurs échecs professionnels, par exemple.
Putain, ça me fout en rogne, je te jure. Non, mais c'est vraiment un truc qui me met grave en colère. Et je dois dire quand même une parenthèse, c'est que la colère que ça suscite, ce type de propos, est en même temps extrêmement saine. La colère, je veux dire, parce que la colère, c'est très sain. C'est quand j'avais entendu des gens dire qu'ils voulaient soigner, enfin dans les débats où j'ai été, qu'ils voulaient soigner les violeurs, ça m'a foutu dans une rage, mais je peux même pas te décrire. Et toute la culpabilité que je pouvais ressentir a été balayée. Mais balayée! Parce que si les ennemis de mes ennemis sont pas forcément mes amis, des gens qui ont envie de se pencher sur le cas des agresseurs, c'est mes ennemis. C'est les alliés de mes ennemis. Et tout d'un coup, je me suis dit, non, mais faut pas exagérer, quoi. Faut pas déconner. D'aller chercher. Il dit, c'est pas pour leur chercher des excuses. Si, c'est pour leur chercher des excuses. C'est pas une rupture amoureuse ou un échec professionnel qui explique que, par exemple, DSK a violé Diallo, quand même. Enfin, je veux dire, que Paco agressait des jeunes gens, ou que le mec de la CNT a aussi, enfin tous ces gens que on voit, dont on entend parler, que Philippe Cobert, il a des échecs professionnels. Et les ruptures amoureuses, mais le côté « bah les pauvres petits bouchons aussi, c'est parce qu'ils sont trop malheureux !» et tout. Mais regarde, depuis PPDA, en passant par Depardieu, ils ont eu des problèmes sentimentaux, ils ont pas de... C'est la misère sexuelle, c'est leur problème professionnel. Non mais attends, ça me fout en rogne, quoi, vraiment. Je veux dire, tu dis c'est des salauds, des ordures, des pourritures. Il faut le voir comme ça. Et aller chercher des raisons comme ça, moi, ça me fout vraiment en rage.
C'est ce que, d'ailleurs, souligne Uzbek Erika, le magazine. Avec cette difficulté supplémentaire, il n'y a pas de profil type chez les auteurs de violences sexuelles. Comment vous le démontrez ? L'immense majorité d'entre eux ne sont pas atteints de troubles psychiatriques et ce sont très souvent des monsieur tout le monde. Comment soigne-t-on des monsieur tout le monde ? Gabriel Arena. Ce sont des monsieur tout le monde au niveau du diagnostic, au sens où ils ne présentent pas de troubles psychiatriques, même si cela peut exister chez une petite partie d'entre eux. Pour les soigner, le psychiatre utilise les mêmes techniques qu'avec les autres patients. Personne n'a de baguette magique. C'est en écoutant le sujet et son histoire, qu'on peut comprendre les mécanismes qui sont en jeu dans les actes de violence. On peut proposer des thérapies individuelles ou en groupe d'inspiration analytique ou comportementale. On utilise les mêmes moyens techniques qu'avec les autres patients en insistant sur l'analyse du passage à l'acte, ce que le sujet dit de la victime, comment il voit les autres, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de barrière entre les gens humains comme nous et les gens inhumains comme eux.
Quoi ?
Dans beaucoup de cas.
Non, mais là, quelqu'un dit ça devant moi, je lui dis, ah, comme toi, peut-être il n'y a pas de barrière, mais comme moi, ta gueule. Excuse-moi, ça me met vraiment en rogne d'entendre ça. Bien sûr qu'il y a des barrières. Toi, tu n'as pas l'impression qu'il y a une barrière entre un violeur et toi ? Enfin, c'est une question rhétorique, évidemment.
Donc, elle dit à peu près le contraire de ce que disait le journal, c'est-à-dire le journal disant « il n'y a pas de profil type » et elle répond « dans beaucoup de cas, on est face à des sujets qui ont eux-mêmes eu des traumatismes, qui ont eu eux-mêmes connu des formes de violence intrafamiliale, des échecs, des ruptures. C'est parce qu'ils ont été, pour certains, des victimes qu'ils cherchent à se ressaisir en agressant, en retrouvant une forme de toute-puissance par rapport à une femme ou un enfant. Bien souvent, il est très difficile pour les agresseurs de parler de ce qu'ils ont subi. Or, s'ils avaient été reconnus comme victimes dès leur plus jeune âge, peut-être qu'ils n'auraient pas eu besoin d'utiliser la violence pour exister. »
Alors là, sur ce sujet-là, je me dis, peut-être ben que oui, hein, c'est possible. Qu'en effet, il me semble que le minimum, c'est qu'effectivement, dans l'enfance, une victime soit reconnue comme victime. Mais est-ce que ça suffit ? Parce que cette idée que tu sois reconnu comme victime serait effectivement un truc, un remède miracle. Pas vraiment, hein. Une fois que tu as reconnu ça, c'est pas forcément suffisant. Mais le fait est que ben ils ont pas été et maintenant, tu vois. Bon, oui. C'est pas, tu vas revenir, tu vas lui dire ouais, mais c'est parce que t'as été violé. Mais comme je te dis, celui que j'avais connu, qui était effectivement un agresseur pédophile, eh bien le copain d'une copine, donc y compris avec ma copine d'ailleurs, il le savait et ça change le fait d'une manière générale. Beaucoup de gens croient que savoir, c'est pouvoir. C'est-à-dire qu'une fois que tu sais comme dans la chanson « C'est normal » de Areski et Brigitte Fontaine, une fois que tu sais ce qui est en train de se passer, ah bah ça va alors. Oui, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Bah t'es en train de... Il y a eu une explosion, t'es en train de tomber, puis on va mourir, et voilà quel est le processus. Mais ça n'a aucune incidence. Et en fait, on le sait, même quand on n'a pas des symptômes aussi épouvantables que de s'en prendre à des... Enfin, que de violer des personnes, quoi. Le fait de savoir quelque chose n'a aucune espèce d'incidence sur le fait, tu sais par exemple que c'est mauvais, c'est peut-être le minimum, mais c'est peut-être nécessaire, mais c'est largement pas suffisant. Tu peux savoir que la drogue ou le tabac c'est mauvais pour la santé, ou tu peux marquer sur une bouteille de vin attention ça saoule, mais c'est pas pour ça que tu vas arrêter. C'est plus, effectivement, c'est une espèce de croyance limite mystique qu'il suffirait de savoir. Et ça, c'est le truc qui fait que on fait tellement confiance dans un prétendu savoir de psy, par exemple. Voilà.
Alors, Gabriel Saint-Jalme appuie le propos de sa collègue en disant « Des études récentes... » Alors, apparemment, c'est au Canada, si je me réfère au lien qui est affiché. Menée à la fois en population générale et en population délinquantielle, démontre en effet que les auteurs de violences sexuelles sont ceux qui ont subi le plus de choses difficiles, potentiellement traumatiques, notamment dans l'enfance et la petite enfance. Pendant toute une période, on n'osait pas parler de ces traumatismes parce qu'on considérait que c'était une manière de leur donner, entre guillemets, de bonnes raisons d'être passés à l'acte. Heureusement, on a complètement changé de paradigme thérapeutique depuis un bon moment.
Elle dit un truc qui est contraire après, un petit peu, hein, je trouve, mais bon.
Uzbek Erika, comment avez-vous vécu les situations nombreuses où l'un de vos patients a fini par récidiver malgré le suivi que vous meniez avec lui ? Gabriel Reyna, j'ai été confronté à des personnes qui ont récidivé alors même qu'elles continuaient les soins. Il est arrivé que le sujet vienne de lui-même au groupe de parole, me raconte tout ça les yeux dans les yeux. On le vit quand même assez mal sur le moment, forcément. On a des idées un peu négatives, on revient aussi de notre angélisme. Il faut parfois passer la main à une autre collègue ou à un autre collègue, ou bien modifier la prise en charge, c'est compliqué. Sur le plan de la société, on sait aussi que quand un auteur récidive, les psychiatres et les conseillers de probation en prennent pour leur grade dans les médias. C'est très injuste, on oublie tout le travail qui a été tenté en amont. La plupart des auteurs de violences sexuelles ne récidivent pas, et ça, on ne le dit pas assez. Mais évidemment, quand il y a récidive, c'est une catastrophe, pour la victime d'abord, et puis aussi pour la société, pour notre travail.
Juste une parenthèse par rapport à la récidive. Il y a quand même un léger couac sur le raisonnement. C'est que quand ils récidivent pas, ça, dans la mesure où ce sont des obligations de soins, c'est quand même un peu compliqué de voir dans quelle mesure c'est l'équivalent de poudre de perlimpinpin de l'obligation de soins, ou si c'est pas la trouille d'aller en prison. Regarde, c'est un truc. On le dit dans l'annonce. Comme on est anarchiste, on va pas demander des sanctions pénale. Oui. On va pas faire un système policier, judiciaire et carcéral pour ce crime ni pour aucun autre. Donc évidemment, mais c'est pas parce qu'on pense que ça marche pas du tout, c'est parce qu'on pense que le remède est pire que le mal. Mais en revanche, indéniablement, la peur de la prison est quelque chose qui empêche beaucoup de formes de crimes, si tu veux. Et il y en a qui sont devenus plus prudents. Par exemple, même Marc Dutroux ou Furniret ayant été s'étant fait gauler pour viol simple, ben tuer les victimes pour non pas par goût du meurtre particulièrement, mais pour pas retourner en prison. Et il y en a qui effectivement récidivent, mais qui sont, on va dire, plus prudents. Mais il y en a d'autres aussi à qui l'idée de consentir le vent du boulet, à qui l'idée d'aller en prison fait peur. Et il y en a même que ça empêche. Regarde la chanson Petite de Léo Ferré, par exemple. Il le dit clairement. Il violerait bien cette petite fille. Mais il a la trouille d'aller en tôle. J'y retournerai te voir quand t'auras plus sous tes jupes le code pénal. Sous-entendu, si seulement j'avais pas les jetons de la prison, tu parles que je t'aurais violé direct, quoi. Mmh. Donc c'est quand même ça, parce qu'avec une petite fille, ça ne peut être qu'un viol, désolé.
Oui, bon. Oui.
Donc la peur de la prison, ça marche. Donc comment savoir s'il n'y a pas eu de récidive, soit parce qu'ils sont devenus plus prudents, soit parce qu'ils ont peur de retourner en prison, ou si c'est vraiment ces prétendus soins. Enfin, quand quelqu'un, on te met un flingue sur la tempe et vas-y, dis que t'es trop désolé, et puis raconte ta vie, et puis même le fait d'ailleurs, dans les tribunaux, j'ai lu beaucoup d'histoires criminelles. C'est un peu ma spécialité, personnellement. Donc, j'en aurai long à dire une autre fois sur les experts psychiatriques, mais bon. Mais je veux dire, le fait est que, par exemple, on conseille toujours, un avocat conseillera toujours à son client de dire que lui-même a été traumatisé. Comme ça, ça fait pleurer Margot, et ça fait meilleur genre, plutôt que de dire « j'en avais envie, je me suis servi », tu vois. J'ai pas de ma faute, monsieur le juge. Et c'est un truc qu'il dirait même jamais. Si jamais ils étaient pas, enfin quand t'as un flingue sur la tempe, t'en dis des trucs, tu vois. Donc faire semblant de ne pas savoir ça, c'est se foutre de la gueule du monde pour moi. Excuse-moi d'être un petit peu désagréable avec ces gens.
Non, mais c'est en plus c'est vrai que quand t'es sur le banc des accusés, tu vas pas plaider coupable. Enfin, t'as moins envie de plaider coupable que.
Je l'ai baisé parce que j'avais envie. Je t'emmerde.
Devant quelqu'un à qui tu te confierais en toute confiance, quoi. Alors, je continue. Caroline Legendre. Pourtant, il faut rappeler que la récidive des auteurs de violences sexuelles est la moins forte par rapport aux autres violences et autres infractions. Elle est de moins de 5%. Une étude parue en 2023 a même montré que le taux de récidive des délinquants sexuels au Canada a chuté de 70% au cours des 80 dernières années. Ça m'est arrivé aussi, et cela a suscité. Alors, ça m'est arrivé d'avoir d'être confronté à des personnes qui ont récidivé, et cela a suscité beaucoup de culpabilité chez chacun des intervenants, les soignants, les intervenants du champ sanitaire ou judiciaire. On se demande ce qu'on n'a pas bien fait, ce qu'on aurait dû faire. Ça pose la question des moyens, de la préparation à la sortie de prison, celle des temps de concertation entre équipes aussi. Quoi qu'il en soit, il ne faut jamais oublier que c'est le sujet qui est responsable. On a beau mettre tous les moyens en œuvre, à partir du moment où il n'y a pas de pathologie, c'est le sujet qui reste responsable de ses actes. La revue Usbek Erika. Comme vous le soulignez dans la conclusion, la prévention reste le parent pauvre de la lutte contre les violences sexuelles. Sur quel levier cette prévention De cette prévention, faut-il agir précisément selon vous? Où mettre des moyens?
Excuse-moi, juste parce que j'ai eu un petit train de retard, mais s'ils ne sont pas malades, pourquoi tu les soignes?
Oui, il y a des choses comme ça. Continue, plus surprenantes, oui, ouais. Gabriel Arena, la première prévention est celle de la violence sexuelle elle-même. Cela se joue bien souvent dans l'enfance, car c'est dans l'enfance que se constitue la personnalité, le narcissisme. Toutes les blessures qui seront des fragilités qu'on retrouvera plus tard chez les auteurs. Les premiers axes sont donc des actes de prévention autour des jeunes. Tous les dispositifs mis en place aujourd'hui ne sont pas suffisamment étayés. Il faudrait réfléchir à mieux faire comprendre aux enfants que leur corps leur appartient, qu'il doit être respecté, que ce soit à l'école ou à la maison. L'autre élément sur lequel il faudrait mettre le paquet, c'est la recherche. Or, en France, on a encore du mal à le faire. Il faudrait vraiment des études approfondies sur la nature de ces violences. Qu'est-ce qui est en jeu? Le pulsionnel, le cerveau, le corps, la sexualité, le rapport de domination à l'autre, femme ou enfant? Point d'interrogation. Les neurosciences apporteront sûrement des réponses intéressantes.
Non mais excuse-moi, mais tu trouves pas quand même que question langue de bois, c'est quand même... Là par contre, je sais pas si on peut passer un diplôme, mais elle l'aura eu haut la main. Hein. Elle parle, c'est vrai, hein, elle parle la langue de bois sans aucun accent, hein, c'est super.
Et ces recherches doivent s'articuler notamment avec la thérapeutique. Il faut lancer ce chantier maintenant pour que d'ici quelques années, on puisse obtenir des résultats probants. Gaël Saint-Jalme. On le dit beaucoup en ce moment, mais l'accès à la pornographie à des âges trop précoces peut venir figer certains fantasmes et entretenir des stéréotypes de genre dans la domination des hommes sur les femmes. La recherche de contenu de plus en plus trash peut aussi faire émerger des addictions à la pédopornographie, ce qui pourrait créer un terrain favorable au passage à l'acte. Du point de vue de la législation, il y a encore beaucoup à faire pour que le contrôle de l'âge minimum requis soit mieux encadré. De manière plus générale, il faut repérer les enfants victimes d'abus sexuels, ceux qui sont exposés précocement à une sexualité d'adulte, ceux qui risquent d'imprégner leur développement psychosexuel et affectif. Caroline Legendre. Il est aussi important de continuer à former les nouvelles générations à des thérapies spécifiques.
Qu'est-ce que vous dites? Excuse-moi.
Ah oui, c'est former les nouvelles générations à des thérapies spécifiques.
Ah, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait plus de gens comme elle. C'est ça qu'elle veut dire.
Sans doute, oui.
Sans doute, oui, d'accord.
Ils font toujours de la pub pour leur...
J'ai pigé.
On répète beaucoup dans le livre que soigner les auteurs, c'est faire moins de victimes. Il ne faut jamais le perdre de vue.
Voilà. Bah, ça serait, si c'était le cas, je veux dire, c'est pareil, mais c'est incroyable, tu vois, tous ces gens, enfin, on surestime tellement tous ces gens diplômés, mais pour dire des trucs aussi bêtes, je cherche un terme plus fort que bête, quoi, tu vois, mais oui, bien sûr, si, enfin, franchement, avec des si, tu mets pareil en bouteille, si ça marchait, bah, c'est sûr qu'il y aurait moins de violeurs. Il n'y a qu'un problème, ça ne marche pas.
Ah ben oui, c'est ça.
Il n'y a même pas de candidat spontané. Donc un mec que tu soignes de force, tu soigneras que dalle. Tu vas le rendre, dans le meilleur des cas, tu vas le rendre plus prudent. Ou s'il a été en prison, il aura l'acheton de retourner en prison. Mais ils ne peuvent pas faire état de gens guéris. Ils ne peuvent pas. Le fait qu'ils ne récidivent pas ne signifie pas que c'est leur prétendue thérapie. Ça peut, il y a toutes les chances que ça soit plutôt la crainte de la prison ou le fait qu'il soit devenu plus prudent et ayant peur d'y retourner. Mais effectivement, si ça marchait, mais ça ne marche pas, enfin tu vois, je veux dire, ça n'a pas de sens ce qu'elle raconte. Enfin bon.
Elle conclut en disant, on met beaucoup l'accent sur la punition, mais on oublie que ces hommes sont des hommes parmi nous qui doivent être soignés. Et enfin, ce sont des psychothérapeutes hein, qui répondent au journal, on oubliait de le dire au début, mais voilà. Gaël Saint-Jalme, la bonne nouvelle, c'est que les milieux féministes se saisissent beaucoup de ce travail. Globalement, celles qui ont été à l'initiative de #MeToo considèrent qu'il est important de prendre en charge les auteurs.
Cette fameuse... Je trouve que c'est vite dit. Je pense que même s'il y en a eu à l'initiative de MeToo...
Certaines, quoi.
Et puis, même qu'elles aient été l'initiative, parmi les femmes violées, il y en a beaucoup. Je pense que, par exemple, les victimes de Philippe Cobert envisagent ni de près ni de loin que cette ordure, ce fumier, cette crapule, là aussi, je cherche un terme plus fort. Je ne sais pas si tu as vu ce qu'il a fait, ce salopard, mais que je n'ai pas vu qu'elles envisageaient qu'on soigne ce mec qui a eu le culot de porter plainte en diffamation contre ses victimes. Je vois pas comment on soignerait ce mec qui est peut-être un être humain, mais pas comme tous les hommes, heureusement. Quelle horreur! Enfin, au secours! Donc voilà, je veux dire, les victimes de viol envisagent peut-être plus difficilement de parce que tu sais de quoi tu parles. C'est pas de la langue de bois. Tu vois, je veux dire, quand c'est comme ça, tu parles à un agresseur fictif, imaginaire. Mais quand tu l'as fait cul pour de vrai, ou que tu penses à de vrais agresseurs, eh ben, tu te dis non, mais c'est une blague. Tu vas pas soigner Paco, tu vas pas soigner le Philippe Cobert, tu vas pas soigner Depardieu, tu vas pas soigner PPDA, tu vas pas soigner aucun de tous ces agresseurs. Ils ont rien fait, de toute manière. C'est leurs victimes qui sont des sales menteuses. Alors, je vois pas comment tu pourrais les soigner. Enfin, bref.
Ouais, ouais, c'est pratiquement fini là. On finit avec voilà. Donc elle dit cette fameuse opposition victime-auteur tend à disparaître grâce aux féministes.
Tu te rends compte ? Non, mais tu te rends compte de ce qu'elle vient de dire ? Est-ce que tu peux répéter la phrase ? Parce qu'il faut entendre ça plutôt. Mieux vaut entendre ça que d'être sourd, franchement.
Donc, celles qui ont été à l'initiative de #MeToo considèrent qu'il est important de prendre en charge les auteurs. Cette fameuse opposition victime-auteur tend à disparaître.
Non, mais tu te rends compte de ce qu'elles disent ? Cette opposition victime-auteur tend à disparaître.
Apparemment, a priori, dans les milieux féministes.
Oui, mais enfin, c'est elle qui le dit. Écoute, j'espère que les féministes ont encore un petit peu les pendules à l'heure. Tu te rends compte de ce que ça veut dire ?
C'est un point de vue très, très, très subjectif.
Mais c'est plus que c'est subjectif. Mais pourtant, il y a quelque chose d'objectif dans un viol. Il y a bien un auteur et une victime, oui. Et il y a une opposition, oui, toi tu dis non, je veux pas, ou tu le dis pas, mais tu le ressens, oui. Et tu le penses, et puis t'as un mec qui te viole, et toi t'es violé, et oui, il y a carrément une opposition. Et le côté, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, tout ça se fond dans des nuances indistinctes, et ben c'est quelque chose d'extrêmement toxique, nuisible. Vraiment, c'est même carrément délétère. On doit arrêter de culpabiliser et se dire, ouais, il n'y a pas de honte à avoir été une victime. Et on ne va pas non plus attendre que la honte change de camp, parce que là, tu peux attendre longtemps. Mais en revanche, oui, il y a une opposition. Quand tu as été violée, tu as été violée. Et oui, il y a une opposition. Je suis désolée, mais tu as envie, la personne qui dit ça, de lui foutre ton poing dans la gueule et de lui demander si elle voit une opposition entre recevoir un coup de poing dans la gueule et le donner. Et puis après, si elle dit « non, j'en vois pas », bah tu lui en donnes un deuxième. Voilà. Non mais vraiment, hein. Excuse-moi, mais ça me met vraiment en colère. Ah, voilà.
Et donc, pour finir, voilà. En revanche, dans l'opinion publique, il y a un vrai durcissement. On continue à se dédouaner les uns les autres en se disant « ils ne sont pas comme nous ».
Oui, ils ne sont pas comme nous, encore heureux.
Se dire que le mal, c'est l'autre et pas nous, cela revient à fermer les yeux. C'est très dommageable, aussi bien pour les victimes que pour les auteurs.
Voilà. Non, mais franchement, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a que moi que, ici, dans cette pièce, que ça met en pétard d'entendre ça ? Enfin, de lire ça, franchement. Que ça serait dommageable aussi bien pour les victimes que de faire un parallèle entre les victimes et les auteurs, et que ce serait dommageable. Et le fait de dire qu'ils sont pas comme nous, ben là aussi t'as envie de dire pas comme moi, peut-être comme toi, effectivement. Peut-être que toi, t'envisages de violer, j'en sais rien, des gosses, je sais pas, mais parce que souvent les femmes, c'est toujours les auteurs, sont dans une écrasante majorité de cas, même envers des hommes, c'est des hommes, quoi. Mais quelqu'un qui a un mec qui me dirait, ben c'est quelqu'un comme moi, un violeur, bah je lui dirais va-t'en d'ici tout de suite, parce que sinon je réponds de rien, tu vois, parce que non, pas comme tout le monde, c'est pas vrai dire qu'ils sont comme nous. T'es pas nous, toi, peut-être comme toi, ouais, peut-être c'est des ordures comme toi, mais la plupart des hommes, heureusement, ils sont pas capables de viol, et ils y pensent même pas, j'en suis sûre. Enfin, je veux dire, s'ils y pensent, à la limite, je suis pas télépathe, donc c'est pas grave. Mais en tout cas, ils sont pas obligés, comme Léo Ferré, de se tenir à quatre mains pour pas violer une petite fille. Je le suppose, quand même, je le présuppose. Et c'est un truc pour dire, tu sais, on est du genre un peu bourrin, quoi, tu vois. Alors qu'eux, ils sont pardonne à ton ennemi, la rédemption, la compréhension, la tolérance, l'amour et tout ça. Et que nous, tu sais, vraiment bas de plafond, t'es manichéenne. Une fois, il y a un mec qui m'avait dit, ouais, t'es manichéenne, c'est mal. J'avais dit, c'est bizarre ce que t'es en train de me dire. Et ils voyaient pas où était le... Mais en fait, c'est ça qu'ils sont en train de dire. C'est mal d'être manichéen. Bah non, c'est pas mal du tout. Et les femmes violées ou les hommes violés, eh ben, ils doivent se dire que oui, il y a une opposition et que non, ça tous vaut pas et que c'est des victimes et qu'il y a une barrière entre victimes et entre victimes et puis violeurs. Voilà.
En tout cas, ces questions liées au viol et à la violence méritent d'être soulevées. Et que peut-être, bon, on parlait de, dans l'article, il parlait de prévention, mais peut-être au niveau de l'éducation aussi, peut-être il y a des choses...
Bah déjà, tu sais la tête que je fais quand on parle d'éducation.
Oui, d'accord.
Mais je pense que c'est pas une question d'éducation, franchement. Je crois pas déjà dans l'idée d'éducation, tu vois, je pense que c'est un truc... dans les trucs qu'on a détaillés, dans l'annonce détaillée qui est parue sur le site de Publico ou sur Paris Lutte Info, on dit quelles sont les pistes qu'on envisage, puisqu'on n'envisage évidemment pas de soigner les violeurs. J'espère que j'ai été suffisamment convaincante sur la question. En tout cas, que s'il y en a qui envisagent ça, ils seront qu'à moitié bienvenus. Enfin, j'espère avoir été claire là-dessus. Mais avec les copains du groupe, copains, copines du groupe, ça fait longtemps, c'est pas la première fois qu'on fait des choses là-dessus, qu'on pense aux victimes, en effet. Donc, les pistes qu'on envisage, c'est écouter, soutenir les victimes, et puis écrire en gros, et surtout pas d'écouter et soutenir les violeurs. Déjà ça, intervenir, je dis de mémoire, hein, intervenir si jamais dans un lieu public on est témoin du harcèlement, d'une agression, refuser de minimiser. On parle de culture du viol, en effet, et la culture du viol, c'est loin d'être seulement les films porno. C'est un truc qu'on beaucoup, mais en réalité...
C'est tous les trucs, elle l'a cherché, ou des choses comme ça.
Oui, elle était habillée comme si, et puis, vrai. Par exemple, une chanson comme 95% est une chanson extrêmement, extrêmement culture du viol, puisque, premièrement, il dit que les femmes... dans leur écrasante majorité, sauf quand elles souffrent de nymphomanie chronique, elles n'aiment pas ça de toute manière, donc si tu veux pas que l'espèce s'éteigne, t'es quand même bien obligé de les violer, tu vois. Mais il a un conseil pour les femmes, une féminazie, il dirait, t'as pas envie, dis non, mais lui, il dit, dans ta tête, tu chantes une chanson, et puis ça passera. Donc, des trucs comme ça, qui sont banalisés, et tout ce qui peut être la banalisation, finalement, de toutes les formes d'agression sexuelle, effectivement, refuser des chansons pédophiles, par exemple, refuser des chansons comme « Fais une pipe à pépé » de Henri Tachan, parce que, excuse-moi, mais il suggère que les infirmières, pour faire plaisir à leurs patients, leur fassent une pipe. Moi, je dis, tu fais une pipe quand t'en as envie, et puis c'est tout. Et puis pas pour faire plaisir. Voilà. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là qui paraissent si anodines, en fait, il faut pas avoir peur de passer pour une féminazie ou quoi, ou quelqu'un qui voit le mal partout, en disant il y en a marre, on veut plus entendre ça. Voilà. Et donc, toute la culture du viol, effectivement, l'a refusée. Et le fait qu'il soit tricard, parce que Paco, par exemple, avant que ses victimes se réunissent entre elles sans psy, hein, ni rien, mais pour essayer de se reconstruire après tout le mal qu'il a fait à beaucoup de jeunes gens.
Pour groupe de parole, auto-support.
Voilà, ils ont fait un truc ils ont créé un groupe de soutien qui était ouvert à ceux qui auraient été aussi même des victimes de quelqu'un d'autre que Paco, hein, d'ailleurs. Mais et puis ils ont fait un coming out parce que il y en avait marre de devoir lui courir derrière. Il était tricard dans beaucoup d'endroits, mais en même temps, je l'ai vu de mes yeux dans tous les milieux militants, il essayait de s'en prendre à des jeunes gens, ils s'en prenaient à des mineurs sans papier, à des jeunes psychiatrisés, par exemple. Enfin, vraiment, c'était une catastrophe. Il fallait qu'on fasse quelque chose. Déjà que tu les refuses. Par exemple, je pense à ce qui s'était passé pour Claude Guillon. Je ne le dénonce pas, il est mort de toute façon, mais c'était un truc qu'il avait même lui-même rendu public. Il avait juste dragué très lourdement une jeune fille lors d'une soirée militante. Et la jeune fille était allée se plaindre. C'était une soirée libertalia et avait dit qu'elle venait pas en boîte de nuit pour se faire draguer et que tous les mecs qui avaient envie de la sauter prennent leur tour pour venir tenter leur chance, quoi. Et alors lui était foudrage, d'ailleurs c'était terrible parce qu'il avait écrit un texte où il disait, c'est vrai, c'est parce qu'elle perd, je suis un champion de l'érotisme. Les mecs, alors je sais pas comment on soigne ce mec-là, mais techniquement, il a pas. J'ai jamais entendu dire qu'il avait violé quiconque. Hein. Mm-hmm. Mais enfin, le fait de dire t'en as marre dans MeToo, il y avait aussi, il y en a marre d'être harcelé. Que même ce truc qui semble anodin, tu te dis, tu viens dans une soirée militante, la jeune fille avait dit, je suis pas venue me faire draguer. Je veux pas que ça se passe comme ça. Je crois qu'il lui avait fait le baise-main en mode, c'est à vous ces beaux yeux-là. Même ça, elle voulait pas. Et t'as pas à avoir des réponses pareilles. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, même le harcèlement de rue, ce qui peut sembler anodin. Moi, une époque, dans les milieux militants, il y a un mec, qui a d'ailleurs pas, qui est pas tricard pour autant, parce que j'ai pas encore le courage de lui dire maintenant tu dégages, mais lors d'un débat où il était, j'espère qu'il viendra pas, j'avais dit quand même en le regardant fixement, que à une époque, avant justement MeToo et tout ce mouvement-là, il faisait pouet-pouet aux filles, mais pour rigoler, tu vois. Et moi, ça me plaisait pas, mais j'osais rien dire. J'avais peur d'avoir l'air de quelqu'un qui fout la merde, quoi, tu vois. Et il a arrêté. Alors, visiblement, il a pas du tout été soigné, parce que quand j'ai dit ça et tout, il m'a dit « Ouais, pourquoi tu me traites comme ça? Tu refuses de me serrer la main? Tu me parles comme ça ?» Enfin, vraiment, en mode génial. Et j'avais dit « Tu sais très bien pourquoi ?» et tout. « Ah non, je vois pas du tout !» Enfin bon, tu vois. Mais en tout cas, il le fait plus, c'est tout ce qu'on lui demande, tu vois. Donc voilà, on peut dire que sans avoir... Je l'ai pas soigné, mais la crainte d'être ostracisé, on va dire... je pense que ça peut quand même pas mal marcher. Paco, je sais pas ce qu'il est devenu, mais ça a dû lui foutre un gros coup parce que il avait vraiment des facilités dans les milieux militants. Je veux dire, un mec de son âge, normalement, les ados vont pas chez lui, tu vois. Mais dans nos milieux, il y a beaucoup moins de barrières de ce genre. Donc quand il amenait des jeunes chez lui, et puis la culpabilité du genre, c'est que t'es homophobe, c'est ton éducation bourgeoise et tout, ça marche dans nos milieux, mais si tu fais ça à la sortie du collège, ça va charcler. Enfin, ouais.
Très bien, mais on va finir avec Petra Pied-de-Biche et... Oui. Et ainsi se termine l'entonnoir pour aujourd'hui. Je rappelle juste qu'on peut toujours rendre visite à nos amis Démocratie, parce que nous écoutons actuellement l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et donc, retrouvez-nous. Démocratie regroupe des membres avec une expérience de la psychiatrie comme usagers, usagères et professionnels, ainsi que des citoyens, citoyennes alliés et intéressés par ces questions. À travers la sensibilisation à la santé mentale et la promotion de pratiques démocratiques dans le soin, nous luttons contre la psychophobie et qui produit l'ignorance, stigmatisation et pratiques coercitives en psychiatrie. Nous croyons que leur établissement est un enjeu collectif et la démocratie sanitaire et sociale un enjeu thérapeutique pour tous et toutes. Donc il y a des, des rencontres, des permanences en quelque sorte, les lundis et samedis à 18h, au 13 rue Constant-Coquelin à Vitry. 13 rue Constant-Coquelin à Vitry, il y a un arrêt de tramway Constant-Coquelin.
Juste à côté, hein.
Et alors ça c'est les lundis et samedis à 18h et les jeudis à 18h au 110 avenue Salvator Allende à Montreuil, c'est les GEM des gens du 110, le GEM des gens du 110. Voilà, au revoir, merci Sylvie et au revoir.
Merci, hein, j'en ris encore. On va continuer dans la douce rigolade. Super sympa, cultivé, un art, tout ça, tout le monde m'aime bien, et y'a de quoi, je suis quelqu'un de bien, tout le monde c'est ça, je suis quelqu'un de bien, tout le monde c'est ça, cette nuit-là, elle était là, dans le lit d'à côté, autant dire dans le mien, ma queue s'est redressée, J'en avais envie, je me suis servi. 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 Violeur, ordure, je n'attends rien de toi, ni de celles et ceux qui savent, ni de celles et ceux qui savent. Et t'invite encore à bouffer, et t'invite encore à causer. Politique, lutte des classes, actualité. Violeur, ordure, je n'attends rien de toi, ni de celles et ceux qui savent, ni de celles et ceux qui savent. Et t'invite encore à bouffer, et t'invite encore à causer, comme si de rien n'était. Alors elle s'est tue et j'ai pu la baiser. Peut-être qu'elle n'était pas d'accord tout d'abord,
mais l'appétit vient en mangeant, c'est ce qu'on dit tout le temps.
Et puis quand même c'est bien connu, cette fille-là elle aime le cul. Et puis quand même c'est bien connu, ce type-là il aime le cul. Et puis quand même c'est bien connu, cet enfant-là aime le cul. Et puis quand même c'est bien connu, tout le monde aime le cul. Ben oui. Violeur, pourriture, je n'attends rien de toi, ni de celles et ceux qui savent, ni de celles et ceux qui savent.